Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé le meilleur week-end possible et à l'écoute d'RTL, bien évidemment. Tous les jours en direct entre 14h30 et 15h30, on est ensemble, on décrypte, on décortique donc notre société et ses mouvements. Et aujourd'hui, je vous le disais, on va s'intéresser à notre comportement face à l'alcool. 3210, nos réseaux sociaux, je vous attends. Dans notre pays, un quart des Français de 18 à 75 ans dépassent les repères de consommation d'alcool. On va y revenir. Le premier mois de l'année, celui des bonnes résolutions, vous le savez, on est en plein dedans, mais également c'est le Dry January qui nous invite à ne pas boire d'alcool pendant 4 semaines. Et ce n'est pas toujours facile pour certains à respecter. Synonyme de convivialité, de détente, de rire, de fête, de lâcher prise, de récompense, l'alcool fait en effet partie intégrante, soi-disant, de notre culture. Et en s'étant bien maussade, eh bien on se dit qu'un petit verre, ça ne fait pas de mal. Et ceux qui s'y refusent passent bien souvent pour des martiens. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile que ça de ne pas boire d'alcool? À quel moment bascule-t-on dans le verre de trop? Comment changer notre rapport à l'alcool? On en parle avec vous. Christelle est en ligne. Dans un instant, elle va pouvoir justement intervenir sur cette antenne, mais également en compagnie de Claire Touzard. Bonjour Claire.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Merci d'être avec nous Claire.
Merci.
Vous êtes l'autrice d'un ouvrage sans alcool chez Flammarion qui revisite en fait votre rapport, votre relation à l'alcool après que vous ayez décidé un jour de tout arrêter. C'est toujours intéressant de partir d'un constat et d'arriver à un autre. On part d'un point A, on va jusqu'au point B. Le point A, c'était quoi? Quelle était votre consommation et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, il faut que j'arrête?
Ma consommation, elle était assez importante puisque j'arrivais à boire une bouteille par soir toute seule.
De quel alcool? De vin?
Du vin surtout. Après, c'était encore plus quand je sortais avec des amis, par exemple. Et le déclic, ça a été de rencontrer un homme qui lui-même était sobre et qui m'a montré...
Ça s'appelle Alexandre.
Alexandre, exactement, qui est un des personnages du livre. Et qui m'a montré une sobriété joyeuse et heureuse qui m'a donné envie, en fait, d'arrêter. Mais je pense que déjà, le constat était là depuis longtemps.
Ça faisait longtemps que ça vous trottait dans la tête et vous vous étiez rendu compte qu'il y avait un problème.
Ouais, ouais. Bah, après 20 ans, avoir bu à différents stades pour différentes raisons. Quand on est jeune, on boit pour différentes raisons. Enfin, voilà, ça nous suit, en fait. Je pense que j'ai décidé d'arrêter 2 ans avant le déclic. Et puis un jour, un 1er janvier, j'arrête.
Après une bonne cuite, hein,
après une énorme cuite, enfin une cuite parmi tant d'autres, on va dire.
Ouais.
En fait, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que l'alcool, en fait, noyautait à peu près tout dans ma vie, et surtout mon rapport avec les autres, et que ça abîmait beaucoup de choses. Et j'ai pas voulu perdre mon ami, et je me suis dit bon, là, il faut faire quelque chose.
À vos côtés aujourd'hui, il vous écoute religieusement, le docteur William Lovenstein. Bonjour docteur.
Médicalement plus que religieusement, Flavie, si vous voulez
dire.
Oui,
c'est vrai que j'ai du mal. C'est vrai qu'on est d'accord.
Non, mais comme en plus on va parler d'abstinence, et pour moi c'est que l'abstinence est quand même concept parfois teinté de religion,
oui,
et sans fondement médical, suffisamment étayé justement pour qu'on arrive à cette sobriété joyeuse qu'évoquait Claire. Voilà pourquoi je répétais plutôt médicalement que religieusement.
Vous êtes addictologue, président de SOS Addiction et co-auteur avec le docteur Laurent Carilla, professeur Laurent Carilla, Tous Addicts et Après, aux éditions Flammarion également. Il n'y a plus véritablement de religion. À une époque, on nous disait il faut arrêter de boire, on boit ou on ne boit pas. Aujourd'hui,
oui,
j'ai quand même le sentiment que le discours s'est assoupli, ouvert.
En France, c'est que ça reste, si tu veux, très difficile de ne pas boire. Mais Claire le dira beaucoup mieux encore que n'importe qui. C'est vrai que ce côté un peu noir et blanc, ce côté manichéen ne laissait pas la place aux stratégies de réduction des risques. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc un peu flou, buvez en gros avec modération, mais on entendait beaucoup plus buvez que modération.
Ouais, c'est ça.
Ça tournait à l'injonction paradoxale. Donc maintenant, avec les recommandations de l'OMS, et avec le Dry January qu'on va fêter ensemble, puisque, comme son nom l'indique, c'est en janvier que ça se passe pour qu'on regarde si on est libre, hein, ou pas, par rapport à l'alcool, eh bien, on sait qu'il faut pas dépasser, on va dire, 10 verres de vin, puisque vous parliez de vin, 10 verres de vin par semaine,
pour un homme.
C'est-à-dire pas plus de 2 verres de vin par jour, pour un homme comme pour une femme.
D'accord.
Deux verres de vin par jour, avec deux jours sans rien. Ça, c'est la recommandation de l'OMS qui dit, si vous voulez faire ça, vous aurez un risque vraiment minime de problèmes liés à l'alcool. Mine de rien, 10 verres de vin, c'est une bouteille et demie. Hein, il faut que les gens l'entendent comme
par
ça.
Par semaine,
et
que hein. Par semaine.
Oui, bah par soir.
Non, mais je reprécise les choses.
Par semaine, ok, et pas par soir, comme Claire a pu le vivre, justement.
Voilà.
Donc, voilà la réduction des risques qui s'installe, ce qui ne doit pas empêcher les attitudes qui viennent d'être exposées. C'est-à-dire aussi, on a le droit de ne pas boire en France d'alcool, quoi. Et même du vin français.
Vous l'écrivez, être sobre est bien plus subversif qu'on ne le pense. Voilà, la sobriété, c'est un peu comme la gentillesse dans notre monde d'aujourd'hui, ou comme la bienveillance.
En fait, boire, c'est une norme. En tout cas, en France, c'est très normatif. Tout est institutionnalisé
autour de ça. Vous, dans votre famille, on ne se posait pas trop la question, d'ailleurs.
Non, mais je pense que culturellement, on ne se pose pas la question. C'est-à-dire que tout est même rythmé autour de l'alcool. Les apéros, les dîners, c'est convivial. Il y a une notion très festive et familiale. Et c'est vrai que quand on déroge un peu à la règle, on est le trouble-fête.
Si je puis me permettre, il y a ce mythe du bon vivant.
C'est ça.
Et il faut arriver à le casser. C'est-à-dire que pour être un bon vivant, mieux vaut être vivant. Ou minimum pas être malade, quoi. Et c'est ça qu'il faut qu'on apprenne en France. Pour être un bon vivant, mieux vaut être vivant. Donc, qui sont les gens comme des allergiques, des hypersensibles, qui sont en danger avec l'alcool, qu'on les mette pas au banc de la convivialité ou de la vie tout court en France, et qu'on comprenne qu'il y a des allergiques à l'alcool qui sont les bienvenus et qui peuvent être des personnes mais merveilleuse dans l'existence. Alors que maintenant, ces gens, ah, t'es sobre, t'es chiant, quoi.
Ah, c'est vrai.
Alors, on va se retrouver dans un instant parce que il y a des profils, hein, je dirais, quelque part. Vous allez nous aider à y voir plus clair, docteur Levenstein. Certains nous expliquent, moi, je peux boire deux verres et puis je m'arrête là et tout va très bien. Et d'autres qui commencent à boire un verre et puis qui vont descendre la bouteille. Christelle va nous rejoindre dans un instant. C'était un petit peu votre profil, hein,
oui,
Claire. Hein,
c'est que ça, la mécanique de la non-modération.
Voilà, c'est-à-dire à un moment donné, j'y vais et puis après, quand j'y vais, que j'y suis, quoi. Hein, et j'y reste. Voilà. Donc, on va en parler avec Christelle dans un instant. Des messages qui nous sont arrivés, certains qui comprennent, d'autres qui ont plus de mal à comprendre, hein, à l'image des réactions que vous avez pu rencontrer, Claire. On est en direct jusqu'à 15h30. Si vous souhaitez poser des questions à nos invités, l'une qui a eu cette expérience et qui est en pleine expérience de sobriété joyeuse, et le docteur Levenstein qui est très gentil, il n'est pas juste là pour nous engueuler, justement, il va nous éclairer. À tout de suite sur RTL.
On est fait pour s'entendre, Flavie Flamand sur RTL.
Pour s'entendre,
Flavie Flamand sur RTL.
Ça, c'est ce qu'on appelle de la désannonce. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 15h30 en direct sur RTL. En ce lundi, on interroge notre relation à l'alcool. En compagnie de Claire Touzard, Sans alcool, c'est son livre, je vous le conseille. En plus, il est vachement bien écrit, votre livre.
Merci.
Non, mais c'est super. Ça aide. C'est beau quand ce sont des sujets aussi qui deviennent des sujets de littérature. Donc ça, vous le retrouvez chez Flammarion. Claire, vous venez de nous expliquer votre consommation d'alcool et puis cette soirée, cette cuite de trop face à l'homme que vous aimez, qui a posé sur vous un regard bienveillant alors qu'il était sobre, et cette prise de conscience de vous dire à un moment donné, ça n'est pas possible, je ne veux pas le perdre, je ne veux pas perdre tout ce que j'ai mis en place aussi dans ma vie au motif que je bois un coup de trop, quoi. Et puis vous nous parliez aussi de votre profil, c'est-à-dire que vous, quand vous commencez à boire, vous ne savez pas vous arrêter.
Exactement, ouais. Comme un mécanisme de perte de contrôle, alors que...
Dès le premier verre, dès la première gorgée.
Dès le premier verre, il y a une envie de se remplir, d'en boire un deuxième, un troisième, un quatrième. Et c'est pour ça, quand il y a une bouteille devant moi, c'est impossible de maîtriser. Ce qui, du coup, appelle à des complications face à la modération. Et c'est pour ça que j'ai arrêté entièrement, d'ailleurs. Parce que je suis incapable de boire deux verres.
Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous preniez de l'alcool, vous étiez saoul?
Ça veut dire que j'ai cherché une sorte de point, un peu d'ivresse, mais ça, je pense que c'est un mécanisme que peut-être Monsieur Levenstein va nous expliquer, qu'il y avait une sorte de mécanisme pour vraiment perdre totalement le contrôle, en fait, voilà. qui s'engrangeait chez moi.
Voilà. Et vous connaissiez votre limite ou pas?
Moi, j'avais pas beaucoup de limites quand j'étais partie, en fait.
C'était la limite, une fois que c'est parti.
Non, mais parce que parfois, on s'interroge aussi, docteur Levenstein. Ouais. On se dit, bon, alors on est dans une soirée, à un moment donné, on sent que ça commence à tanguer, on passe à l'eau, on rentre, on est chez soi, le lendemain, c'est pas trop la gueule de bois.
Ce sont les personnes qui ont la chance d'avoir un rétro-contrôle.
C'est ça.
Et non pas comme Claire et beaucoup d'autres, d'avoir ce phénomène, je dirais, de l'allumage de mèche et de la cascade neurobiochimique. Alors, allumer la mèche, en effet, un verre peut suffire. Petite précision pratique, j'ouvre une parenthèse, pardonnez-moi. Plus lentement on boit ce premier verre, moins on a de risque d'allumer la mèche. C'est très différent de descendre un verre en 30 secondes que de le boire lentement en 30 minutes pour éviter cet allumage de mèche.
Rapide,
et
quoi.
Si j'ose dire, après, on n'arrive plus à les prendre. Cette cascade neurobiochimique fait qu'on a une réaction dans notre cerveau qui nous fait perdre, comme vous le disiez très justement, le contrôle. Ça, c'est à peu près 10% de la population, on dirait qu'ils sont un peu allergiques, elles y peuvent rien, vous voyez, vous pouviez rien, si ce n'est peut-être penser à boire éventuellement beaucoup plus lentement ce premier verre et caler derrière immédiatement un verre d'eau pour tremper un peu le cerveau sur le volume.
Oui, parce que c'est notre cerveau dans ces cas-là qui agit.
À total. Et vraiment, si vous pouvez garder l'image de la cascade neurobiochimique, le mot un peu pression, voilà, je m'en excuse, mais ça y est, on a déclenché, et puis ça va déclencher un autre circuit, et puis on va rechercher l'ivresse, et là, évidemment, on ne peut plus s'arrêter. C'est la même chose avec la cocaïne.
C'est la même chose souvent avec
les cigarettes aussi.
Alors, on accueille Christelle sur cette antenne parce que forcément, ça va lui parler. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous avez 47 ans, vous vivez en Savoie et vous connaissez cette même problématique. Hein, c'est-à-dire Exactement. Que quand vous avez un verre dans la main, si vous avez une bouteille en face de vous, vous allez la terminer. S'il y en a deux, nous avez-vous confié, ça va être la même chose.
Exactement. Exactement, c'est un peu le problème. Et là, j'ai eu déjà un début de réponse grâce au professeur ou au docteur.
Ouais.
En buvant doucement, c'est vrai qu'on a tendance à boire vite.
Est-ce que vous avez toujours été comme ça ou c'est venu avec le temps ?
J'ai toujours été comme ça.
D'accord, ok. Vous y pensez souvent ?
Oui.
C'est-à-dire que... Oui, pardon.
Des moments où ça va bien dans la vie, bah c'est gérable parce que voilà, mais c'est surtout dans des moments où dans la vie on rencontre des difficultés, où là c'est vraiment compliqué quoi.
Un lendemain, un soir vous buvez, le lendemain, quand vous vous réveillez, vous vous sentez comment ?
Mal, honteuse, et je me promets de plus recommencer.
Jusqu'à
la prochaine fête ou la première fois où je recraquerai. Parce que c'est pas tous les jours non plus.
D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une façon de consommer. Hein. Et encore une fois, on n'incrimine pas parce qu'on a tous peut-être une relation qui nous pose question à l'alcool. C'est ce qu'on essaye de comprendre aujourd'hui. Hein. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'empêcher ou on imagine qu'on ne peut pas vivre sans boire. Donc ça veut dire que dès le lendemain matin, vous vous en voulez. C'est-à-dire vous couchez le soir, ça tangue un peu, et dès le lendemain, vous vous sentez mal.
Oui, tout à fait.
Eh ben, bienvenue au club, Christelle. Mais parce que je trouve ça horrible, horrible. Ouais. Et c'est ça aussi. C'est-à-dire que les bonnes résolutions, vous les aviez aussi, hein, vous régulièrement, Claire.
Sur quoi, sur le lendemain?
Ouais.
Oui, mais en fait, c'est terrible parce qu'on a une sorte de quête un peu de puissance quand on boit.
Oui.
Et en fait, qui dégringole complètement le lendemain, quoi. C'est-à-dire que.
Mais le lendemain, on se dit qu'on recommencera jamais.
On est proche que ça soit avec la cocaïne ou l'alcool. Hein, je prends les deux parce qu'il y a quand même quelques points communs qu'on oublie quand même de souligner. On est proche de la bipolarité, c'est-à-dire la maniaco-dépression. Quand vous regardez quelqu'un qui est dans cette phase euphorique, de montée, de mégalomanie, qui se croit un prix Nobel en vous racontant des bêtises.
Pas toujours, parfois on est drôle. Enfin,
Souvent, t'as quelqu'un qui va avoir cette euphorie qui n'est pas toujours justifiée quant aux propos tenus. Et le lendemain, c'est le down, c'est la descente sans parachute, et on est passé comme ça en 12 heures, on a fait l'expérience de la maniaco-dépression.
Bon, alors Christelle, vous restez avec nous.
Alors, si je peux me permettre, il y a une chanson qui illustre très bien ce que vous venez tous de dire.
Ouais.
C'est Chandelier de Saya. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté les paroles.
Pas du tout.
C'est vraiment hallucinant. Tout le monde adore qui danse au lustre et après le lendemain, elles sont tellement mal qu'elles revoient encore plus.
On va essayer justement de la trouver. On va marquer une courte pause. On va se retrouver dans un instant parce que vous l'expliquez très clairement dans votre message. J'aimerais bien trouver une solution. Donc, on va en parler évidemment avec nos invités. À tout de suite sur RTL.
RTL.
Flavie Flamand. 14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Cheerlander, c'est Sia sur l'antenne d'RTL. Vous nous l'avez conseillé, Christelle, pour illustrer la problématique que l'on rencontre aujourd'hui, dont on parle, hein, c'est-à-dire notre consommation d'alcool. On ignorait les uns les autres que ça parlait de ça, mais effectivement, c'est toujours très intéressant et on se la passera les matins de gueule de bois. Alors, je vais vous lire un texte qui m'a fait, enfin, un extrait du livre de Claire Touzard, qui est notre invitée en compagnie du docteur Lovenstein, qui m'a fait, pardon, mais sourire, parce que c'est vraiment... Vous sortez d'une soirée. Beaucoup de convives rentreront ce soir attristés par cette valse vanité. En retrouvant leur canapé, ils se sentiront creux et seuls. Ils se demanderont ce qu'ils ont foutu, pourquoi ils ont perdu du temps dans cette petite bringue trop mondaine. Et puis, ils voudront élever les chèvres dans le Larzac et se mettre à la céramique. Ils écouteront un vieux disque de New Order pour se rappeler leurs 20 ans. Et puis, le lendemain, ils y retourneront. L'envie d'en être est une drogue comme les autres. C'est vrai que déjà, en général, les fins de soirée, c'est où on se dit, on va se prendre un dernier petit verre. Non, mais c'est sûr qu'on va se passer de la musique des années 80 et qu'on va vouloir revisiter toute notre vie. C'est ça la puissance, en fait, de l'alcool.
Entre autres, oublions pas que l'alcool, comme toute drogue, a la capacité de transformer notre humeur, Claire l'a dit, notre relation aux autres, évidemment, notre sommeil, notre appétit, etc., mais aussi notre propre pensée et donc nos idéaux. Ce qui fait qu'on va pouvoir se balader de l'euphorie initiale des premiers verres à la nostalgie proche de la mélancolie quand on se retrouve sur ce canapé et qu'on va chercher en effet quasiment le 33 tours d'il y a 30 ans. Quoi.
Christelle, vous avez vécu ces fins de soirée ?
Oh là là, oh oui.
On est bien d'accord.
Une fois, on a même rigolé, on s'est filmé avec des copains.
Ouais.
Et on a regardé le lendemain, on se croyait super intelligent à refaire le monde. Et quand on a regardé le lendemain, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est crétin.
Voilà. Et c'est là qu'on est un petit peu honteux, hein, Claire Touzard.
Ben, moi, je trouve qu'il y a un truc un peu freudien. Enfin, il y a un truc un peu dans l'alcool, on va trifouiller les anciens souvenirs, mais parfois négatifs. Je trouve qu'on tourne un peu en rond sur soi et sur son passé. Je trouve qu'il y a un truc un peu répétitif dans l'alcool qui fait que ça nous renvoie toujours vers le passé, parfois vers nos blessures. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'expérimentais.
C'est un côté dépressif, quoi.
Ouais, un peu. Il y a une volonté de retourner, de retourner au passé. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça d'émotionnel.
Dans les phases, en effet, dans les phases de descente. C'est-à-dire, tu peux avoir jusqu'au côté anxieux de mourir. Alors, plus avec la cocaïne qu'avec l'alcool, mais c'est terrifiant. La descente où t'es mal, avec une sensation de mort ou une pensée de mort. Et puis, la plupart du temps, heureusement, ça va pas jusque-là. Mais il y a un mal-être avec une dépression qui s'installe, d'où ces idées nostalgiques.
Et pourtant, on y
cette
retourne.
Domination du passé.
Et pourtant,
parce que
on
c'est
y
du
retourne.
On-off.
C'est ça.
C'est-à-dire que notre cerveau, là-dessus, il est assez mal foutu. Il nous vend en quelque sorte la période euphorique et il oublie un peu la descente.
La solution, justement, qu'est-ce qu'on peut dire à Christelle qui dit « moi j'aimerais trouver une solution ».
Oui, je crois que déjà poser la question, c'est faire un premier pas, donc ça c'est pas le cas pour tout le monde, et dans ces cas-là, welcome Christelle. Deuxièmement, elle a entendu des petits trucs pratiques, mais qui ont leur importance et qu'on rappelle pas assez en France, de boire très doucement ce premier verre d'alcool peut changer des choses chez un certain nombre de personnes, de pas être à jeun quand on boit, en effet, aussi ce premier verre. On a dit intercaler des verres d'eau, parce que ça trompe un peu ce volume gastrique, notre cerveau. Et puis, par exemple, pour les gens qui ont un rituel de boire une bouteille, dès qu'ils ont ouvert la bouteille, c'est fichu. Sauf, c'est un patient qui m'avait proposé ça, au début j'y croyais pas trop, c'était il y a des années, sauf ceux qui ont le courage de vider un verre ou un verre et demi dès le début de la bouteille. Mine de rien, ils ont diminué leur consommation. Parce que réouvrir une deuxième bouteille, c'est déjà un autre geste.
C'est la symbolique là qu'on est en train de passer un autre.
Les eaux usées de Paris se sont enrichies sûrement de très bons crus, mais comme ça il a bu en tout cas progressivement
ou
moins,
acheté des
20%
plus petites bouteilles.
30% pour le dire.
Alors, Laurent nous écrit.
Donc, il y a des petits trucs comme ça, Christelle, et puis après, il y a la consultation, bien évidemment, avec quelqu'un qui puisse vous aider.
Mais si ça vous prend la tête, Christelle, est-ce que vous aimeriez de temps en temps vous dire je voudrais vivre sans alcool ? Est-ce que ça vous traverse l'esprit ?
Ça m'est déjà arrivé, car je vivais pendant longtemps dans un autre pays où l'alcool est prohibé.
Ah.
Et là, ça m'a pas posé de problème, ça m'a pas empêché de m'amuser, d'être heureuse, ni rien. Mais c'est la tentation depuis que je suis revenue en France.
Vous aimeriez arrêter ?
J'aimerais trouver un juste milieu, pouvoir profiter d'un bon verre de vin avec un bon plat, sans pour autant m'en jeter la bouteille, quoi.
Alors, le temps file, vous connaissez l'histoire, mon cher William. Christelle, vous allez rester à notre écoute, si vous le voulez bien, parce que il y a James qui va intervenir. Impossible de m'arrêter, deux verres, la bouteille est passée systématiquement, nous écrit James. Lui, il a arrêté l'alcool depuis 8 mois. Il va nous donner, justement, dans un instant, il va nous livrer son témoignage et Claire Touzard va pouvoir aussi nous expliquer comment elle a fait. Je vous embrasse, Christelle. Merci de nous avoir appelé.
Merci.
Et merci pour votre transparence. Prenez bien soin de vous. On fait un tour par l'info sur l'antenne d'RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
C'est vrai que je bois de l'alcool tous les jours, d'autant plus avec les apéros Vision qui sont quand même un moment de réconfort dans cette période compliquée, nous écrit Maxime. Ma copine m'a proposé de faire le Dry January, mais je ne m'en suis pas sentie capable. Laurent qui nous écrit, on a déjà tellement de galères depuis un an, alors si en plus faut arrêter l'alcool, tant qu'on boit avec modération, je ne vois pas où est le problème. Il y en a marre de nous infantiliser, on sait ce qu'on fait. Ah voilà. Ouais. Ah ouais. Diane, tout le monde autour de moi fait le Dry January et ce n'est pas simple. Un ami a créé un groupe par message pour que l'on se motive. Chaque jour, il y en a toujours un qui est sur le point de craquer. J'avoue, j'ai hâte d'être au 1er février et je ne suis pas la seule. Bon, vous avez fait les prolongations d'un Dry January, hein, parce que ça fait combien de temps que vous avez arrêté de boire de l'alcool, Claire Touzard ?
Un an et bientôt un mois.
Un an et bientôt un mois. Est-ce que ça a été difficile ?
Oui, c'était très dur.
Voilà.
Mais plutôt psychologiquement. Ouais. Parce que ce qui est dur, c'est socialement, en fait. Parce qu'on se rend compte que tout est configuré autour de l'alcool. Et donc, je comprends ces personnes. Mais au fil du temps, on commence à se rendre compte des bienfaits et ils sont tellement énormes qu'après, on n'arrive plus à revenir en arrière.
Avant de revenir sur ces bienfaits avec James qui est en ligne avec nous, le Dry January, c'est une bonne idée. On vous reçoit tous les ans pour en parler, docteur William Levenstein.
Oui, en fait, c'est une idée assez récente en France et
oui, mais c'en est une.
Mais au Royaume-Uni, ça fait des années que ça permet de faire une pause, de se rendre compte si on a paumé sa liberté par rapport à ça. Peut-être que parce que je suis médecin, moi je pense que les deux trésors de notre existence sont la liberté et la santé. Or, les addictions menacent les deux. Donc il ne s'agit pas d'emmerder les gens, il s'agit, encore une fois, de les protéger au sens pour être un bon vivant, mieux vaut être vivant. Quoi. Et c'est ça qu'on aimerait changer avec le Dry January. Si en janvier, vous avez du mal à vous arrêter, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de vous parler, de vous dire que tiens, il y a un besoin, une forme peut-être de dépendance qui s'est installée. Donc regardons les choses. Est-ce que comme 85% des Français, on peut consommer avec modération ? Ou est-ce que comme les 41 000 morts par an, on va paumer nos relations, on va paumer notre bien-être, on va paumer justement ce qui fait notre joie de vivre, et à ce moment-là, le côté bon vivant, il est vraiment pas bon vivant, surtout quand on tape sur sa femme parce qu'on a perdu le contrôle. Hein.
Est-ce que vous pouvez entendre aussi ceux qui disent à un moment donné, c'est dur quoi. En ce moment, ras-le-bol, plein
c'est
de dos.
Marco,
je suis barman, j'ai 55 ans, j'étais content d'avoir arrêté de boire pendant plusieurs mois, puis je ne sais pas pourquoi, l'ennui peut-être, j'ai repris. Est-ce que pendant ces périodes de confinement, ça a été plus compliqué pour vous aussi, Claire Touzard ? Est-ce que vous y repensez encore en vous disant...
Bien sûr, mais il y a des passages dans le livre où je le raconte, hein, où il y a des moments où j'ai envie de descendre dans la rue et d'aller acheter une bouteille et de la boire, même le trottoir, hein. Parce que être confronté au réel, c'est extrêmement difficile parfois, et c'est ce qu'on cherche dans l'alcool, c'est un peu une déconnexion.
Et ce réel, en ce moment, c'est pas joyeux, quoi.
C'est tout un travail de se rendre compte qu'en fait, être en prise avec le réel, en fait, ça peut être plus agréable qu'on ne le pense, mais c'est très dur au départ. Et je pense qu'il faut déconstruire, en fait, cette idée. Je pense que ce qui est le plus dur, c'est déconstruire tout ce qu'on donne à l'alcool. On donne à l'alcool beaucoup de puissance. On lui dit qu'en fait, ça nous rend plus fort, ça nous déconnecte, ça rend plus agréable, etc. Et je pense que l'idée est de se dire, moi j'ai envie de dire, essayez de faire sans pour vous rendre compte qu'en fait, toute votre irrévérence, votre humour, etc., ça vient pas de l'alcool. Au contraire, quand on arrête de boire, on retrouve son esprit, on retrouve ses émotions, on est plus en prise avec le réel et c'est beaucoup plus agréable. Mais c'est moi, ça m'a pris des mois avant de le découvrir parce que c'est très dur d'outrepasser le plaisir immédiat, en fait, et de voir sur le long terme. C'est le plus difficile, je pense.
Oui, on est en plus, c'est vrai, là, dans une période...
Certains nous disent qu'il y a déjà tellement de contraintes.
Alors, il y a les contraintes et puis il y a ce qui est appelé justement le temps libre. Et tu vois, le mot ennui, qu'est-ce que c'est que l'ennui?
Ouais, c'est
on n'y réfléchit pas forcément beaucoup. L'ennui, c'est le premier pas, en fait, de l'angoisse. C'est-à-dire que comme on n'est pas assommé par une substance ou une activité, on commence à entendre ce que notre tête nous dit. Donc la personne qui dit « Oh là là, moi je m'ennuie », qu'est-ce qu'il va faire? Il va en effet économiser, si j'ose dire. Il va remettre les Walkman, tu vois, il va mettre les Walkman de l'alcool pour pas entendre ce que son cerveau lui dit dans ces cas-là. Et attention à cette histoire d'ennui, parce qu'on peut aussi parfois ne plus avoir peur de s'écouter. Tu vois, de se dire, oui, là, il y a moins de bruit, de l'hyperactivité quotidienne. Oui, je suis tout seul.
Mais qu'est-ce que l'alcool ça veut nous dire détourne, d'être tout seul, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'alcool nous détourne finalement de nos tourments, quoi.
On vient, si tu veux, on remet la musique plein pot pour pas écouter éventuellement ce que notre tête nous dit.
James est en ligne avec nous. Bonjour, James.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, James. Vous avez 52 ans, vous vivez à Paris. Oui. Ça fait maintenant 8 mois que vous avez arrêté de boire. Vous étiez un peu dans un profil dont on a parlé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à vous arrêter, à vous modérer.
Absolument. Alors avant, je voudrais juste dire que je suis content d'entendre Claire, ouais. Parce que ce qu'elle a dit juste avant le docteur, c'est exactement ça. Vous avez beaucoup parlé de... Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire.
J'entends. Et puis, vous êtes très patient, parce que je vous fais poireauter, et ça va recommencer dans un instant, parce qu'on va faire une petite coupure. Mais allez-y.
C'est pas grave. Oui, alors, en fait, il faut parler du positif de la sobriété.
C'est ce qu'on allait faire maintenant, ouais.
Il faut parler du fait que ça enlève la peau de saucisson que vous avez dans les yeux. Vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez le sommeil, vous retrouvez énormément de choses qui sont tellement, tellement belles. Voilà.
Vous avez connu, donc, vous, ces journées qui servent à rien, de gueule de bois, où on a l'impression de courir
horrible.
Après
ouais. Horrible, c'est horrible. À la fin, je comptais le nombre de jours où j'étais sobre. C'était terrible.
Donc vous étiez en souffrance tout le temps, entre deux verres d'alcool.
Deux, et puis j'étais un puits sans fond, comme les autres. Mmh. Et puis un jour, j'ai décidé de me lancer des challenges. Mmh. J'ai décidé, ok, je ne bois pas pendant 28 jours. Et puis, au bout de 28 jours, j'ai continué. Je me suis dit, tiens, c'est sympa. Deux, trois, quatre mois sont très difficiles psychologiquement, parce qu'on se retrouve tout seul, tout nu devant le miroir. Et puis après, le sixième mois, il y a une espèce de boom quoi, qui m'est tombé dessus, un espèce de bonheur ultime que j'appellerais la confiance en moi. Voilà. Et c'était... Je suis euphorique depuis.
C'est vachement bien, ça fait du bien d'entendre ça. Ouais.
Ah ouais, c'est génial.
Alors, vraiment. Vous allez le développer dans un instant, cette sobriété heureuse, James. Je vous le promets, hein, mais je fais appel encore un peu à votre patience. Pas on va problème. Se retrouver tout de suite sur RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Fait pour s'entendre.
Flavie Flamand sur RTL.
Bon, alors notre standard explose, évidemment. Hein. J'ai 24 ans, j'ai pris 3 cuites durant ma courte vie, nous écrit Antoine. J'ai fait le choix de ne plus jamais boire d'alcool. Ce que je trouve difficile, c'est le regard des autres étudiants. Merci pour cette émission. Vous êtes nombreux à nous dire, bon bah en fait, c'est compliqué quoi. Hein. Le boire avec modération m'isole, m'éloigne des autres au cours des soirées, nous écrit Anthony. Soit je passe pour un ancien alcoolique qui fait attention, soit je ne rentre pas dans le moule. Et franchement, c'est super difficile de devoir se justifier à chaque fois. Et vous êtes très nombreux effectivement à nous dire ça. Alors, on est en ligne avec Claire Touzard. On est avec Claire Touzard dans ce studio avec le docteur Levenstein. Et James est en ligne avec nous et vous nous disiez, parlons de la sobriété heureuse.
Mais oui, bien sûr. En fait, quand vous regardez toutes les campagnes de prévention, c'est uniquement basé sur les problèmes de l'alcool. Mais parlons de la sobriété, quoi. C'est incroyable.
Qu'est-ce que vous avez retrouvé, vous? Votre liberté?
Alors, la vue, déjà. Je ne porte plus de lunettes.
William, non, mais William, je ne savais pas. Mais
tout. Alors, le mot, c'est névrite optique rétrobulbaire, c'est-à-dire des atteintes oculaires sérieuses et parfois irréversibles. Donc, on a des troubles de la vision qui sont évidemment entraînés par l'alcool.
Ok, ouais. D'accord. Donc
et qui sont parfois très, très, très sévères.
Bon.
Je portais juste des loupes machin, mais maintenant, j'en ai plus besoin.
D'accord.
J'ai une meilleure peau, j'ai une digestion qui est parfaite.
Ouais.
Alors que pendant que je buvais, c'était la catastrophe.
Ouais.
Et puis j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai un sommeil impeccable, je me réveille tous les jours à 6 heures sans réveil.
Ouais.
J'ai la pêche la journée.
Vous êtes heureux?
Oh, grave.
Voilà, non, mais c'est ça. Mais c'est ça qu'il faut dire. Parce qu'effectivement, ça déprime. Il y a quelque chose.
Oui. En fait, quand vous disiez ça isole, c'est vrai que ça isole. Mais ça isole, je voudrais dire que le deuxième aspect de la sobriété, c'est aussi des aspects psychologiques. On se retrouve face à soi. Et on se retrouve, un peu qui on est et qui on a envie d'être et comment on veut vivre.
Ouais.
Parce qu'on est libre.
Claire,
C'est tout ce que dit le livre, ce que dit James, c'est que on retrouve son esprit et par là on se retrouve soi-même et on prend le pouvoir aussi sur soi, sur la vie. On est plus connecté avec la vie. Du coup, on est plus exact aussi dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écrit.
Est-ce que ça apaise?
Ça apaise aussi, bien sûr.
En termes d'émotion.
C'est-à-dire que je trouve que quand on boit, il y a une sorte de nervosité, parce que c'est pas que le soir même où on est ivre, c'est après, le lendemain, où il y a une sorte de nervosité ça qui nous tend et qui nous rend complètement différents. Et on se retrouve quand on arrête de boire, et je trouve que c'est le plus beau cadeau. C'est une délivrance, en fait, l'arrêt d'alcool.
C'est un cadeau que l'on se fait, comme le dit le docteur Lovenstein.
Oui, je pense que c'est ça, à un moment donné, encore une fois, liberté et santé. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour prévenir des méfaits de la santé, mais on oublie cet aspect de liberté et se faire le cadeau de la liberté. On le voit bien dans cette période-là. C'est pas rien. Alors, ça peut paraître paradoxal parce qu'en effet, il y a cette pression et qu'on se dit quel est le produit dopant, que ce soit le cannabis ou l'alcool, qui va nous faire passer ce temps long. Et puis, il y a la construction personnelle. C'est-à-dire, au fond, ce temps long, il est aussi un temps libre pour soi. Qu'est-ce qu'on peut penser librement? Qu'est-ce qu'on peut faire librement?
C'est plus créatif, beaucoup plus imaginatif.
Plutôt que de travailler ça, on va mettre le paravent ou alcool ou cannabis. Le cannabis pour passer le temps. Et j'ai envie de dire, c'est le produit dopant extraordinaire pour ne rien faire.
On recouvre de l'énergie, de l'envie d'entreprendre, de faire des choses. Parce que être assis sur un canapé à boire un verre de vin ou une bière, on est inactif, je dirais. On devient fainéant, non?
On consomme, en fait, on ne produit pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on devient beaucoup plus productif et imaginatif quand on consomme moins.
On en fait un livre.
Choses, par exemple. entre autres, mais c'est très important, cette idée de liberté, je trouve, parce que effectivement, on est beaucoup plus libre.
Et je disais juste rapidement, tu vois, en consultation, on a des personnes qui viennent pour telle ou telle raison parce qu'elles ont ces dommages ou ces méfaits de l'alcool. Mais j'attends toujours ma première patiente ou mon premier patient qui viennent en me disant « Écoute, je voudrais retrouver ma liberté de penser. » Ouais. On oublie, si tu veux, dans les dégâts des drogues, dont l'alcool, dont le vin, cette perte... tu vois, de l'autonomie de penser.
James, vous restez avec nous. Certains s'interrogent, est-ce qu'on a besoin d'aide? Est-ce qu'on peut y arriver tout seul? Ce sera dans un instant avec vous sur RTL. On a bien compris, James, à tout de suite.
Oui.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Alors maintenant qu'on a, on a regardé les choses un peu en face, les effets de l'alcool, nos soirées à rallonge, un peu déprimantes, nos lendemains gueules de bois. Maintenant qu'on a parlé de la sobriété heureuse, c'est-à-dire cette liberté que l'on gagne, ces envies qui reviennent, cette énergie aussi pour entreprendre. Maintenant, comment on fait? James, vous dites, oui, c'est possible, on peut s'arrêter tout seul. Ça a été votre cas, vous vous êtes fixé des objectifs et vous étiez visiblement armé aussi, je dirais. Vous étiez solide pour pouvoir mener ça, mener votre entreprise à bien sans aucune aide.
Alors, c'est un petit peu fou. J'ai suivi un programme de challenge anglo-saxon.
D'accord.
Qui s'appelle One Year No Beer. Ouais. Et qui propose justement ces challenges. Et avec,
sur les réseaux
ça se trouve sur Internet.
D'accord, ok.
Et sur les réseaux. Et du coup, j'ai décidé de quitter mon job et de créer la même chose pour la même chose avec ma PAPT.
Vachement bien.
En France.
D'accord.
Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je voulais juste ajouter quelque chose. Il faut pas hésiter à le dire et à donner votre nom. Vous avez dit que je m'appelais James. En fait, je m'appelle James Rolf. Et vous pouvez me trouver sur Internet ou sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux.
Très bien, le message est passé. Comment ça s'est passé pour vous, Claire Touzard? Alors, vous étiez accompagnée déjà de votre amoureux.
Déjà.
Non, mais c'est important,
bien sûr.
D'avoir quelqu'un qui nous motive, qui est passé par là aussi. Enfin, j'imagine que ça a dû vous aider.
Ah, énormément. Déjà, le livre m'a beaucoup aidée, mais le livre était une conséquence de nos discussions. C'est-à-dire que c'est grâce à lui et nos discussions à bâton rompu pu, qui en fait qu'on a pu dénoyauter un peu le rapport qu'on avait à l'alcool et comprendre en fait pourquoi on buvait. Et je pense que ça m'a aidé et je conseillerais aux gens de s'entourer de gens qui boivent pas quand ils veulent arrêter, parce que c'est une communication, une conversation qui aide énormément la parole des autres.
Et sinon,
quand on chez Léa par exemple.
Voilà, alors Léa qui sont les alcooliques anonymes.
Exactement.
Et vous y êtes allée?
J'y suis allée et j'ai découvert beaucoup de parcours parfois qui n'avaient rien à voir avec les miens et pourtant qui étaient similaires, c'était étonnant. Et des gens qui sont sortis de galères sans nom et qui ont beaucoup à dire. Et j'avais une mauvaise image d'Léa, et quand j'y étais, j'étais très admirative de ces gens. Et je trouve que la parole des autres est vraiment essentielle, et c'est pour ça que c'est important de donner des bonnes images, des bonnes images de gens qui arrêtent, de donner ses noms, prénoms, des visages derrière les sobres, ouais. Pour dire bah voilà, vous aussi vous pouvez, c'est une possibilité en fait.
On a le droit d'être alcoolique et pas anonyme.
Alors exactement.
Non mais c'est intéressant parce qu'on emploie des mots depuis le début. Aujourd'hui, certains vont interroger leur rapport à l'alcool, mais tout en disant je ne suis pas alcoolique, je n'ai pas de problème avec l'alcool. Or, on le sait que on est nombreux à s'interroger sur notre relation à l'alcool. Donc, si on s'interroge, c'est qu'il y a quand même un truc qui colle pas quelque part. Donc, c'est important de regarder les choses en face aussi, William, mais parce que moi, je trouve que ce qu'il y a d'assez extraordinaire, vraiment clair, hein, je vous l'ai dit, mais c'est cette transparence, quoi. Son discours est clair, les mots sont là.
De la honte, de la culpabilité, de l'omerta.
Elle dit la vérité,
quoi. De la pression franchouillarde.
Non, mais tu vois, c'est pas facile de dire. Franchement.
Mais franchement, c'est fondamental et c'est un plaisir d'écouter James et vous, parce que commencer à sortir de cette toxicomanie des idées reçues, que tout le monde est bien avec l'alcool. Certains, oui, et bien qui continuent s'ils sont heureux et qui se mettent pas en danger, surtout ne soyons pas, tu vois, hygiénistes radicaux, mais les personnes qui sont pas bien avec ça existe, on le sait, et encore une fois, on parle de millions de personnes qui ont des troubles liés à leur consommation de l'alcool, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5 millions de personnes. Donc dans ces cas-là, welcome telle aide, welcome telle, j'ai envie de dire, aide personnelle. Il y en a qui sont, tu vois, qui font ce cadeau tout seul. Et puis parfois, faut aussi consulter. Parfois, faut prendre aussi des médicaments. Rappelons qu'il y a eu des avancées.
Et qu'on
aussi
peut être aidé. Voilà, c'est ça. Et qu'on peut être bien aidé.
Exactement. Mais sans perdre surtout cette diversité des aides. L'importance de l'environnement, elle est évidente. Si tu prends un môme qui est dans son cannabis et tous les copains jouent à la PS5 avec du cannabis, ça va être compliqué pour lui. Mais il va pouvoir montrer l'exemple peut-être un jour aussi pour ce groupe. Alors, alcool, même topo. Et moi, je suis, pardon, un policier, gendarme, hein, tu veux, ils ont leur frigidaire et leur cantine alcoolisée dès le déjeuner.
Alors, justement, écoutez-moi.
Au travail, c'est compliqué de ne pas boire.
Alors, on va terminer avec deux messages. Marco, merci d'avoir lu mon message à l'antenne. Je viens de boire 2 verres de muscat et 3 verres de rosé en 1 heure. Je n'ai plus d'alcool dans mon frigo et je me lance donc ce défi de ne plus boire une goutte d'alcool et de contourner dorénavant le rayon alcool. Marco, vous allez nous laisser vos coordonnées sur Facebook. On va vous envoyer le livre de Claire Touzard et celui aussi du docteur Lovenstein. Et puis lui, Olivier, qui dit « J'ai arrêté de boire il y a 13 ans et croyez-moi, la vie est tellement plus belle. Je buvais alors jusqu'à 2 bouteilles de whisky par jour. » Voilà, c'est le Dry January, mais qu'on pourrait peut-être effectivement étendre au printemps, à l'été, je ne sais pas, et sans reparler. En tout cas, c'est un sujet que l'on vous a proposé aujourd'hui, qui nous a été dicté par l'actualité littéraire. À chaque fois qu'on parle de l'alcool, évidemment, nos auditeurs sont sur le coup, ils ont besoin d'en parler, donc c'est bien que c'est un sujet pour nous tous, et je vous remercie de nous en avoir parlé de façon aussi claire et honnête, Claire Touzard.
Merci.
Je conseille votre livre « Sans alcool, être sobre et bien plus subversif qu'on ne le pense ». Oui, soyons subversifs, c'est aux éditions Flammarion. Merci et bravo. Bravo pour le livre, hein, parce qu'après chacun son parcours. Enfin, je veux dire, c'est pas. Mais c'est un super livre, quoi. C'est un beau livre. Merci, William Lovenstein.
Merci, Flavie.
Et à la prochaine, hein, comme au dirait revoir. L'autre. Au revoir. Tous addicts et après, coécrit avec le professeur Laurent Carilla. C'est aux éditions Flammarion également. Merci à vous deux. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et d'avoir été aussi réactifs. On se retrouve demain dès 14h30 en direct sur RTL pour un sujet complètement différent. D'ici là, prenez bien soin de vous, protégez-vous. Je vous embrasse, puisqu'on peut le faire à la radio. À demain.
Salut, c'est Vincent Perrault.
RTL Pop Ciné.
Je vous attends tous les dimanches dès 14h pour RTL Pop Ciné. Des jeux, des interviews, des chansons de films, pour tout savoir de l'actualité cinéma.
RTL Pop Ciné, présenté par Vincent Perrault, dès maintenant en replay sur RTL.fr.